puis en tant que nouvelle CP, je pense que ça qui est difficile, c'est qu'on veut aider, on veut être pertinente, on veut être compétente.
Est-ce que quand je ne fais qu'écouter, j'ai de l'air à travailler, j'ai de l'air à être efficace, j'ai de l'air à être compétent?
L'humilité de dire c'est une bonne posture de penser que t'es pas le plus brillant de la salle, mais c'est aussi une bonne idée de s'assumer puis dire j'ai ma place dans l'équipe avec ce que je peux lui apporter.
Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Cadre 21 et animé par Maxime Pelcha lors du Rendez-vous CP 2026, un événement organisé par Immersion CP.
En certaines professions, on a des juniors, des seniors. Dans le monde des CP, on a des bébés CP. Voilà. Et nous en avons une autour de la table ce matin.
Absolument. Je suis encore en train de faire ma boîte à outils, comme dirait ma patronne.
Et t'avais pas un kit de départ, à proprement dit, dans ton milieu quand t'es arrivé, de « voici le cartable et pars avec ça », là?
Dans mon milieu, il n'y avait jamais eu de CP, en fait. Bon. Donc, la faculté dans laquelle j'ai été intégrée, mon poste est comme en construction. On est encore en train de se demander ça va être quoi mon ratio, tu sais, programme individuel. Donc, il y a beaucoup encore de construction.
À propos des outils, d'expérience, en tant que vieille personne, je te dirais de ne pas acheter le kit d'outils complet, pas cher. Vaut mieux prendre son temps et acquérir des outils de qualité, car sur une tâche, une job donnée, le bon outil fait toute la différence dans l'expérience, dans le temps que ça prend, dans le nombre de fois que tu vas devoir recommencer, etc. Puis moi, j'étais une personne qui allait assez à l'instinct, et on peut rentrer une vis avec un marteau, hein?
Oui, il s'agit de, ben, avec beaucoup de volonté.
Le mur en souffrira, mais ça finit par rentrer. Mais j'ai appris que ça valait la peine de prendre le temps de mettre les choses en place. Par exemple, d'analyser les besoins des gens qui viennent nous voir pour des petites questions. Puis de respecter un certain processus, puis d'être rigoureux dans notre processus de travail. À la longue, c'est payant.
Bien, l'écoute active, je pense, c'est... De ce que je comprends, même d'hier, de la journée en ligne, c'est la caractéristique la plus importante pour une CP. Puis c'est celle que je dois le plus travailler. Parce que moi, je suis habituée à être très réactive, tu sais, quand les gens viennent me voir, dire, ben, hey, j'ai la solution pour toi, je m'en réponse. Viens, tu sais, c'est comme hier, tu sais, j'étais dans la présentation d'Alexandre Bédard sur l'IA puis les réticences, puis... T'sais, moi, tout de suite, j'essaie de trouver comment déconstruire la réticence, t'sais. Mais alors que des fois, c'est juste d'accueillir cette réticence-là. Oui. Puis ça permet de l'analyser puis de voir d'où elle vient, c'est quoi la racine de cette réticence-là. Mais moi, souvent, je suis beaucoup dans le mode solution, t'sais. Puis en tant que nouvelle CP, je pense que ça qui est difficile, c'est qu'on veut aider, on veut être pertinente, on veut être compétente, on veut apporter « the solution » mm-hmm. à la personne.
Oui. C'est une posture de coach, en fait. Puis le coach, il écoute beaucoup, il parle peu.
C'est ça. Mais je pense que ça va être possible. C'est juste que là, en ce moment, on dirait que j'ai peur d'avoir l'air incompétente si mm-hmm. je dis rien. Tu sais, si la personne me parle, je suis comme... Mm-hmm.
Ouais, c'est très intéressant, ce volet-là, là, sur puis surtout dans une posture d'insertion professionnelle dans la profession de CP, de se voir dans l'œil de l'autre, finalement, de dire comme, OK, quand je fais ça, comment l'autre réagit? Puis c'est très intéressant, cet élément-là. Puis je suis sûr qu'il y en a d'autres qui se retrouveraient dans cette réflexion-là. Est-ce que quand je ne fais qu'écouter, j'ai de l'air à travailler? J'ai de l'air à être efficace? J'ai de l'air à être compétent? Très intéressant, ça, ce volet-là.
As-tu assisté à l'atelier de Dominique Brière hier sur les leviers du leadership pédagogique?
Non, j'avais pas assisté. Mais je sais que chez nous, Constance Mélodie, on fait justement une petite formation sur notre journée de service, là, mm-hmm. Avec le service, tout ça. Mais c'est sûr que moi, mon mentor, c'est Constance Denis. Puis mm-hmm. Constance, elle arrive toujours avec 13 articles puis 60 boîtes à outils, puis elle est tout le temps. Fait que moi, je me dis, si je veux être une bonne CP, il faut que je sois capable de fournir tout de suite. Oui. Ah oui, parle à telle personne, parle, fais ci, fais ça, va voir telle boîte à outils. Puis là, moi, je me dis, mais si je fais juste écouter... La personne va se dire, ben oui.
Tu iras creuser ces leviers-là de réseau d'abord, des réseaux de CP, comme ce qu'on fait ici présentement, réseau du monde de l'éducation, donc les gens qui enseignent, avec qui tu travailles, les réseaux de gestionnaires aussi, avec lesquels tu vas avoir à gérer, négocier ta relation, ta posture, ton aide, ton utilité à un moment donné. Et L'autre levier intéressant que tu abordes, là, c'est la crédibilité.
Oui.
Comment on la publicise, on l'assoit, on la développe avec le temps, puis probablement que si on t'associe à une personne qui écoute et qui reçoit la demande avec empathie, par exemple, ta crédibilité va se construire tranquillement.
Mais est-ce que, justement, c'est pas peut-être un besoin à répondre, ça, le fait d'être là tout d'abord à l'écoute? Puis il y a peut-être là, je sais pas, un syndrome de l'imposteur là, quand on se pose la question que tu te posais tantôt, de dire comme, ouais, je suis vraiment la bonne personne qui devrait écouter alors que peut-être qu'on me paye pour donner des solutions alors que la première solution à donner, c'est l'écoute.
Bien, je pense que, oui, il y a une piste là-dedans. Je pense que ça dépend du besoin aussi. Quelqu'un qui arrive avec un besoin très ponctuel, tu sais, de « Ah, aide-moi avec vos claps », c'est sûr que si je fais juste l'écouter, il va peut-être trouver que c'est...
Mais là, c'est une question fermée. Là.
Exact.
C'est facile.
Mais quelqu'un qui arrive, par exemple, avec des réticences par rapport à l'intelligence artificielle générative, bien là, oui, peut-être que l'écoute, ce serait vraiment un bon premier pas, ouais. Plutôt que d'arriver et dire « Ben non, c'est pas si pire que ça. Ben non, tu vas voir, je vais te montrer Perplexity, je vais te montrer Chat, je vais te montrer Gemini, puis viens-t'en. » Là, peut-être que ce serait un petit peu too much. Fait que je pense que c'est peut-être à échelle variable, dans le sens que selon ce que la personne vient chercher, t'écoutes plus ou moins. T'es plus en mode action, mode solution. Fait que je pense qu'il y a un ajustement là-dedans aussi. Puis par rapport à la crédibilité, je trouve que c'est un très bon levier que tu as nommé, Sylvain, mais moi, dans mon cas, ce qui a été une difficulté supplémentaire, puis j'en ai discuté avec mes gestionnaires dans ma première évaluation, c'est que moi, j'étais en communication avant, donc je suis issue vraiment des communications, j'ai un bac maîtrise en com. J'ai mon troisième cycle en pédagogie, l'enseignement supérieur. J'arrive dans ma faculté où je suis double diplômée en communication. Déjà, il y a des points d'interrogation dans les yeux des gens quand ils voient que je suis conseillère pédagogique. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je veux dire, être à la maîtrise en com. Puis ils me connaissent soit comme étudiante ou comme chargée de cours en communication. Ou ils me connaissent de visage, je ne sais pas trop je suis qui, parce qu'ils sont dans d'autres départements, tout ça. Donc, j'étais déjà connue dans la faculté, mais pas avec ce chapeau-là. Donc, il y avait tout aussi une construction avec mes collègues, des anciens collègues, soit des chargés de cours ou soit des anciens étudiants. Tout ça que, donc, il y a beaucoup de choses à traiter pour moi dans ma crédibilité aussi. Ça va très bien, là, mais dans le sens qu'au début, ça a été d'installer ma posture aussi.
Puis, dans ce cas-là, c'est même un flou, là. Qui es-tu dans la faculté?
Là, j'avais le goût de chanter du Margeau, mais je vais m'en retenir.
Ça aurait été bon pour, comme transition.
Oui, effectivement.
qui
on part en musique.
mais Véronique, je trouve ça intéressant parce que si on tourne ça de l'autre côté, dis-moi, si ça fait bizarre, dans le fond, mettons, de te voir, toi, ton profil là, comme conseillère pédagogique, dans ce contexte-là, à l'inverse, qui aurait eu quel aurait été le personnotype de de ce CP où on fait comme « Ah, ben oui, c'est évident ».
J'imagine ça aurait été quelqu'un issu de l'éducation, depuis le jour 1, qui a fait son bac en enseignement, qui a fait sa maîtrise en enseignement, son doctorat PhD en éducation. Donc, parce que c'est ça que je cherchais aussi comme profil, hein, quand le poste est sorti. Moi, je suis passée au deuxième tour parce que j'avais pas de maîtrise ou de diplôme d'études supérieures en éducation à ce moment-là. Je pense que le profil type de oui, Maxi, ça aurait été quelqu'un comme ça. Est-ce que ça aurait été la meilleure personne? Je ne sais pas, par exemple. Sûrement pas parce que c'est moi qui l'ai eu, mais dans le sens que la facilité aussi que j'ai, c'est que je connais les gens. Donc, je suis moins menaçante qu'une pédagogue qui arrive de l'externe
aussi.
avec ses alignements puis ses affaires puis tu sais, tout ça. Moi, j'arrive vraiment comme une amie qui change un peu de chapeau. Une curiosité, je dirais, peut-être comme un safari, dire « Mon Dieu, avec les jumelles, qu'est-ce qui est arrivé à Véronique? Tu » sais? Mais oui, je pense que... Je sais pas si ça répond à ta question, mais
oui, ben, le mais, profil. Mais c'est pour ça que j'enverrai la balle à Sylvain. T'sais, de ton côté, Sylvain, t'as voyagé à travers la province comme dans tes dernières années. T'as rencontré plein de monde dans les différentes institutions. T'en as vu de ces profils atypique, dans le fond, qu'on pourrait dire. Là. Si finalement, c'est la norme, c'est l'atypie à certains points. Mais tu l'as vu, toi, dans les écoles. Puis même aujourd'hui, à Campus Numérique, vous travaillez avec des gens qui arrivent avec un background qui est complètement diversifié, dans le fond, là, dans les profils. Là.
Et le point commun entre ces différentes personnes-là atypiques, c'est qu'elles se sentent seules atypiques. Elles pensent que la norme, c'est d'avoir suivi un certain chemin. Et au niveau de leur propre perception de compétences, de, d'être en mesure de justifier leurs interventions, d'être... Je vais donner un exemple. Dans mon équipe, j'ai 7-8 conseillers pédagogiques qui sont en prêt de service. Donc, ils sont dans leur milieu, dans des cégeps, des universités, puis ils donnent l'équivalent d'une journée par semaine aux accompagnements de mon équipe. Ce sont tous et toutes des conseillers pédagogiques 5 étoiles. J'ai l'impression de coacher dans la Ligue nationale, premièrement. Ce sont des tops, des tops. Tous et toutes persuadés qu'ils sont les moins bons de l'équipe, puis que leur place est plus ou moins justifiée à bord. Il y a une de nos CP, je vais la nommer, c'est Annie Lapierre, qui nous parle souvent d'humilité pédagogique. Mm-hmm. Puis je commencerai par ça comme conseiller pédagogique. L'humilité de dire, c'est une bonne posture de penser que tu n'es pas le plus brillant de la salle, mais c'est aussi une bonne idée de s'assumer puis dire j'ai ma place dans l'équipe avec ce que je peux y apporter.
Bien, je trouve ça intéressant parce que est-ce que ce serait pas... Est-ce que ce serait pas une bonne chose de douter? Mais, tu sais, il y a une citation qui dit que le doute est un signe d'intelligence. Donc, quand on doute de soi, puis en tant que CP, je pense que c'est bon de douter aussi parce qu'il y a tellement de choses à aller chercher. C'est tellement en constante mouvance que si on s'assoit sur « je sais tout », je maîtrise tout, mais ça fait de nous des CP pas très à jour. Donc, je pense que...
Bien, c'est une profession qui est mal définie, déjà.
Ouais.
C'est un métier qui est difficile à expliquer. Avant que Félix Arguin se penche sur qu'est-ce que c'est être compétent comme CP, qui creuse avec d'autres, il n'a pas été le seul à travailler là-dessus, on avait beaucoup de difficultés à faire la nuance entre les profs qui étaient tannés d'enseigner, qui finissaient leur carrière sur des postes comme ça, et les autres qui arrivaient avec un bagage autre que le monde de l'éducation. Ce qu'il faut savoir, que toi, t'es pas passé par là, fait, tant mieux, t'es chanceuse. Non, parce que le prof type a étudié toute sa vie, puis un bon matin, il s'est reviré de bord, il faisait dos au tableau, puis c'était à son tour de donner le show. Mais la vraie vie à l'extérieur de la salle de classe, il l'a peut-être pas expérimenté. Fait que tout ce qu'il connaît de l'école, c'est l'école, mais tout ce qu'il connaît, c'est l'école.
On parle de profs d'université, là.
Parle de profs en général, au secteur
général.
Secteur jeune aussi.
Sérieux?
Oui.
Ils n'ont jamais rien fait d'autre que d'enseigner.
Bien, des jobs d'été.
Oui, des jobs... OK.
Mais c'est effectivement un classique, parce qu'au secteur jeune, on va retrouver des personnes conseillères pédagogiques qui sont la plupart du temps issues... Ce sont des profs qui étaient au primaire, qui étaient au secondaire. Puis là, même chose, là, même en FP, en FGA, oui. La plupart du temps, c'est des gens qui sont devenus profs, qui sont aperçus qui avaient peut-être une facilité à mentorer, à expliquer, voilà. À accompagner des collègues, ben, des nouveaux collègues, puis de dire comment... Viens comme personne conseillère pédagogique pour faire ça, finalement, de ton cœur de semaine, tu vas être là pour conseiller. Fait que, oui, c'est effectivement des gens qui ne connaissent que ce milieu-là. Effectivement.
Dans les techniques au cégep, par exemple, on va voir des gens qui ont appris leur métier, qui l'ont pratiqué, qui ont commencé soit à superviser des stages ou à mentorer des plus jeunes. Puis il y avait un intérêt à enseigner leur savoir-faire, leur savoir-être, leur savoir professionnel et qui sont devenus profs au cégep. Maintenant, quand ils se ramassent pour la première fois devant un groupe puis qui ont un vrai cours à donner, ben leur expérience, c'est celle qu'ils ont eue quand ils étaient étudiants. Donc, ils vont avoir naturellement tendance à répéter exactement les bonnes et mauvaises pratiques qu'ils ont reçues quand ils étaient à la place de leurs étudiants. Ah, c'est un environnement formidable. Il y a plein de gens qu'on aime et qu'on admire qui arrivent à l'événement, qui entrent dans l'hôtel, qui passent dans le hall. On salue, on se sourit, mais on n'a pas le temps de se parler.
Mais c'est une des choses que j'ai vraiment appréciées en entrant dans mon poste de CP, c'est à quel point c'est une belle communauté.
Oui.
Je trouve que puis là, j'ai l'air de parler à la Seigneur des Anneaux un peu, mais tu sais, je trouve que c'est une... même le service de soutien à l'information à l'Université de Sherbrooke, tu sais... auxquels je suis rattachée, tu sais, c'est vraiment des personnes gentilles.
Mais ça, c'est la grande force d'immersion CP, là.
Oui.
Pour l'avoir vu au secteur jeune, il y a une certaine communauté, mais pas aussi dynamique, aussi tissée, serrée que celle-ci. Et puis, il y a le monde universitaire, puis il y a le monde collégial. Dans toutes sortes de domaines, là, de la vie courante, à la petite semaine, ce sont des vases étanches qui communiquent plus ou moins bien entre eux. Mais chez Immersion CP... Tous les conseillers pédagogiques de tous les ordres d'enseignement forment une gang qui se comprend juste à être ensemble. Là. Oui.
Ça c'est vraiment génial.
C'est fantastique.
Parce que souvent, on se pose des questions justement sur, à l'université, sur comment ça se passe au collégial, parce que les étudiants nous arrivent du collégial, au premier cycle universitaire, puis des fois, on se dit, mais comment ça a été abordé, telle compétence transversale, par exemple, ou est-ce qu'ils ont la compétence numérique, on parlait des 12 dimensions hier dans le cadre des compétences numériques, comment ça a été abordé, est-ce que ça a été suffisamment abordé, mais on communique très peu. T'sais, j'ai beaucoup de professeurs dans les départements à la faculté qui ne communiquent très peu avec leurs collègues disciplinaires du cégep ou du collégial, puis on sait très peu. Donc, ce genre d'événement-là, ça permet justement de connecter puis de connaître un peu plus les pratiques au collégial, puis vice-versa. Là.
Et on remarquera que nos grands experts sur cette question, c'est-à-dire les étudiants, ne sont pas consultés.
Très rarement, mais de plus en plus.
Puis je sais qu'au
mois de la pédagogie, l'an prochain, il y a une intention claire par rapport à l'intelligence artificielle générative, justement, d'aller plus voir nos étudiants, parce qu'on se rend compte qu'on en a beaucoup discuté entre nous, éminents intellectuels, tu sais. Ah oui, la pensée critique, où est-ce qu'on s'en va, tatata, mais on sait très peu, finalement, des praxis des étudiants. T'sais, comment ça commence à se faire des focus group là, dans les départements, de dire bien, comment ils l'utilisent, nos étudiants, qu'est-ce qu'ils en pensent, nos étudiants, qu'est-ce qu'ils savent, nos étudiants, puisqu'on on découvre de plus en plus, c'est qu'ils sont beaucoup plus informés qu'on pense. Puis, ils sont beaucoup plus conscients aussi des impacts environnementaux, des impacts sur la pensée critique. Ils sont pas complètement niais, là. Donc,
ils sont critiques.
Ils sont critiques de l'intelligence artificielle. Oui. Donc, puis là, on se rend compte peut-être que c'est plus temps de leur dire « faites attention à l'intégrité intellectuelle, faites attention ». C'est sûr, il faut le marteler quand même, mais là, je pense qu'ils sont rendus à comprendre nos attentes, nous, en tant que personnes enseignantes. C'est quoi nos attentes par rapport à cette utilisation-là? Puis comment aussi on peut mieux les outiller pour le marché du travail? T'sais, je pense que là, on est rendu dans l'action. Je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais bref, par rapport au mois de la pédagogie, on veut aller plus s'enquérir de comment nos étudiants vivent par rapport à l'intelligence artificielle. Puis, on l'a fait cette année aussi. On avait fait un événement sur la rétroaction. On a eu un panel étudiant où est-ce que les étudiants sont venus nous dire comment eux reçoivent la rétroaction des personnes enseignantes, qu'est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qu'ils apprécient moins, qu'est-ce que ça signifie pour eux, la rétroaction aussi. Donc, ça, c'est important aussi d'aller questionner parce que notre public, finalement, si on revient à la communication, ma discipline de naissance. Donc, c'est un public. Puis, comment on fait pour que le message... T'sais, c'est pour ça que je disais que la pédagogie, tantôt, quand on parlait tout à l'heure, c'est pas si loin la pédagogie de la communication parce que quand tu enseignes à un public, tu transmets ou tu essaies du moins de transmettre un certain message, donc certaines connaissances à ce public-là. Comment tu vas faire? Quel format tu vas utiliser? Quel canal tu vas utiliser? Il y a plusieurs façons en pédagogie de transmettre des connaissances. Donc, pour moi, c'est de la communication pure et dure.
Donc, les personnes qui enseignent auraient tout avantage à maîtriser les bases de la communication.
Tout à fait.
Bon, il faut faire du multidisciplinaire.
Absolument. Bien, c'est ce bout de discussion-là, parce que tu disais comme, je sais pas d'où est-ce que j'arrive, où est-ce que je m'en vais avec ça, mais ça rappelle l'aspect très carrefour de la profession de CP, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui convergent, puis c'est un élément intéressant que tu apportes sur la dimension de la relation avec les étudiants aussi, que les CP ont aussi... Cette relation-là, puis qu'elle pourrait être encore plus peut-être creusée un peu, puis notamment avec l'arrivée de l'IA qui est nouveau pour tout le monde. C'est comme si on était un peu tous néophytes là-dedans. Ben, c'est ça, en même temps, c'est peut-être une occasion à prendre là-dessus. On est en direct du rendez-vous CP 2026 à Offord. Dans quelques minutes ici, ce sera le lancement de l'événement. Je remercie énormément mes deux cobayes pour tester le matériel puis commencer une première discussion parce que je pense qu'il y a du bon matériel là-dedans. Alors, Véronique Lamoureux de l'Université de Sherbrooke, merci.
Plaisir.
Sylvain Desautels de la dynamique équipe de Campus Numérique, merci beaucoup.
Hey, grand plaisir.
Et on se souhaite un excellent rendez-vous.
Un très beau.
Très, très beau.
Merci.